Nous allons partager un sujet parce que cet après-midi, comme ce matin, j'ai à cœur de vous expliquer certaines choses. Dieu a besoin de chrétiens pentecôtistes. Alors Dieu a-t-il besoin de chrétiens pentecôtistes, protestants, évangéliques? Quels sont les meilleurs chrétiens? Quelle est la meilleure dénomination? Est-ce que le Seigneur, il est intéressé par les dénominations ou est-ce que le Seigneur, il est intéressé par la piété personnelle? Bien sûr. Nous allons d'abord lire deux textes sur les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. D'accord? C'est écrit où? Tiens, aidez-moi. Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9 et 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, si vous êtes sauvé cet après-midi, si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, c'est un don. C'est pas écrit? C'est pas bien ça? C'est pas vous qui avez choisi Dieu. C'est encore mieux. C'est pas encore mieux? C'est lui qui nous a choisi. C'est pas une bénédiction supplémentaire, ça? Quelle faveur! Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais, lisons la suite, s'il vous plaît. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous venons de partager le fait que nous sommes sauvés par grâce et que ce n'est pas par les œuvres, mais que lorsque nous sommes sauvés, le Seigneur a préparé pour nous des œuvres afin que nous les pratiquions. La question que je vous pose cet après-midi, est-ce que vous êtes sûr? C'est sérieux ce que je vous dis. Est-ce que vous êtes sûr de faire les œuvres que Dieu vous appelait à faire? Peut-être que ça ne vous accapare pas, peut-être que vous n'y pensez pas, mais moi je vous encourage à y penser. Pourquoi? Eh bien parce que la foi sans les œuvres, qu'est-ce qu'elle est? Elle est morte ou inutile. Les deux sont écrits. C'est écrit où? Ça tient d'un. Je vous teste un peu. C'est écrit où? Jacques, on va le lire. C'est bien. Il y a des chrétiens qui s'imaginent que comme on est sauvé par grâce, les œuvres, ça n'a plus aucune importance. Vous savez qu'on vient, certains d'entre nous en France, on vient d'une dénomination où tout était fait par les œuvres. Et on a pris le contre-pied. Ça fait qu'on ne parle plus des œuvres. Mais, regardez avec moi, Jacques chapitre 1er, ou 2, pardon, 2, verset 20. Jacques 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, alors comment elle est? Elle est inutile. Verset 26, comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Voyez un petit peu? Et ce sont des questions qu'il faut quand même aborder. Dans l'Apocalypse, au chapitre 14, vous savez qu'il y a sept textes dans l'Apocalypse où il est parlé de béatitude. Heureux, heureux ceux. Et il y en a un qui est lié aux morts, aux morts en Christ, je dis bien. C'est tous les morts ne sont pas morts en Christ. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Que lorsque quelqu'un meurt, ses œuvres le suivent. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais lorsque quelqu'un meurt, tout ce qu'il a fait pour le Seigneur, tout est enregistré. C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est juste? Voyez, Dieu, mais c'est écrit, heureux, mais c'est sûr, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Bon, mais ça c'est déjà bien. Mais il y a une double bénédiction, c'est que tout ce que l'on fait pour Dieu, si on le fait pour Dieu, de tout son cœur, tout ça, ça nous suit. Alors, on reste dans l'Apocalypse, et Dieu s'adresse à une église, justement, où il parle des œuvres, parce que Dieu connaît tout de vous. Vous avez oublié peut-être, vous, les œuvres que vous avez faites. Mais Dieu s'en souvient, lui. Tout. Jésus va très, très loin dans l'affaire. Un verre d'eau que l'on donne à un chrétien. Donc, ça veut dire la plus petite chose que l'on fait pour Dieu, de tout son cœur, c'est enregistré. C'est écrit ou c'est pas écrit? Tout. Les œuvres. Alors Dieu connaît les œuvres. Et dans la dernière église à laquelle Dieu s'adresse dans l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 3, Dieu s'adresse à une église qui fait des œuvres. Il fait des œuvres, d'ailleurs il le dit presque à toutes les assemblées. Apocalypse 3, verset 15. À toutes les églises, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Dieu, il sait tout. Tout ce que l'on fait pour lui. Demain, on a un conseil d'administration et déjà Dieu, il sait ce qu'on va faire, les œuvres que l'on va faire avec l'argent qui est récolté ici dans l'église, au travers des dîmes, au travers des offrandes, comment on le gère pour ici ou pour là. Dieu le sait. Tout ça, moi j'ai oublié déjà tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait pour Dieu dans les conseils d'administration. Mais je vous dis, Dieu n'a pas oublié. Alors Dieu dit une chose, je connais tes œuvres. Apocalypse 3, verset 15, je connais tes œuvres. Et à cette église qui fait beaucoup d'œuvres pour Dieu, il y a pourtant quelque chose qui ne va pas. Ça serait une erreur de pousser les gens à faire des œuvres pour faire des œuvres. Il y a quelque chose de plus important que les œuvres encore. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je viens d'introduire en expliquant que un croyant doit faire des œuvres. S'il ne fait pas des œuvres, il est dans un véritable danger. Rappelez-vous le serviteur qui avait enfoui le talent. Est-ce que vous savez ce que Jésus lui a dit ? Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce qui prouve vraiment que les œuvres ne sauvent pas, mais en vérité, elles sont le résultat de ce que l'on est en communion avec le Seigneur. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu, eh bien, il ne peut pas faire autrement que de faire certaines choses pour le Seigneur. Il le fait. Ce n'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de faire. Il y a déjà, ils n'ont pas d'argent, mais ils vont avoir à cœur de visiter des personnages. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là. Ils vont bouillir de faire quelque chose pour le Seigneur. Mais voilà, les œuvres ne sont pas forcément aussi la preuve que nous sommes aussi en communion avec Dieu. L'église de Laodicée avait basculé dans les œuvres et croyait que parce qu'elle faisait beaucoup d'œuvres, elle était riche. Est-ce que c'est bien quand une église fait beaucoup d'œuvres ? Ben oui, c'est bien. Mais quel danger si nous étions obsédés que par les œuvres ? Il y a quelque chose de plus important que les œuvres, c'est la communion avec le Seigneur. Et l'église de Laodicée s'est faite piéger par cela. Elle avait certainement beaucoup prospéré, elle faisait beaucoup de choses. Et après, c'est un petit peu comme un train qui avance, on fait les choses, il y a des moyens financiers, il y a des moyens humains, il y a des moyens techniques, etc. Et on peut après basculer là-dedans. Alors, il faut continuer là-dedans, mais Dieu met en garde cette église parce qu'il l'aime, parce qu'elle est en train de s'attiédir, comme quoi, voyez, on peut faire des œuvres tout en étant tiède. Un chrétien tiède, est-ce que c'est utile au Seigneur ? Un chrétien tiède, est-ce qu'il rend un bon témoignage ? Alors, c'est pour ça que Dieu ne supporte pas la tiédeur. Et dans demi-heure, notre culte va s'achever à peu près. Il faudrait que chacun, devant le Seigneur, c'est quelque chose de personnel quand même, nous puissions nous examiner et dire, mais est-ce que je suis tiède ou est-ce que je suis bouillant ? Où est-ce que je suis en train de m'attiédir ? Hier soir, je lisais le psaume 42. Dans le psaume 42, vous le lirez. C'est un homme qui est en train de s'attiédir. Il aime Dieu, mais il est en train de s'attiédir. On le voit à ses questions. On le voit. Il commence à dire, oui, Seigneur, pourquoi tu m'oublies ? Vous voyez des questions qui révèlent le début de la maladie. Je ne sais pas comment vous parlez au Seigneur. Mais je crois que quelqu'un qui est bouillant par Dieu, pour Dieu, il fait très attention à la façon dont il parle à Dieu. Oui ou non? Le début de la maladie, c'est ça. Oui, qu'est-ce que les gens, ils me disent, voyez ce qui est arrivé là au Japon. Il y a des gens qui vont nous dire, peut-être demain, là où on va être, ah, si Dieu existait, hein? Si Dieu existait, qui viennent me le dire. Faites-leur lire Luc 21, Matthieu 24. C'est la meilleure des choses. Vous ne croyez pas que c'est la meilleure des choses à faire? Donnez un évangile de Matthieu ou de Luc et dites aux gens, lisez l'évangile de Matthieu. Vous savez, quand on lit Matthieu 24 et Luc 21, on a l'impression de voir le journal en boucle. C'est pas vrai? Et quand on dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure, il règne. Ces choses ont été prophétisées, ça nous attriste, mais cette peine, nous la déposons au pied du Seigneur pour prier pour que les âmes, dans ces circonstances, se tournent vers Dieu. Il y a des gens sous les décombres qui ne sont pas encore morts, certainement, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'ils peuvent crier à Dieu dans ces moments? Eh bien oui, eh oui. Dieu les aime, les Japonais, il n'aime pas que les Français ou les Antillais. Dieu, il aime tout le monde. Et il ne faut pas baisser la tête, il faut se redresser. Le début de la maladie, il est là, on le voit dans certains passages de l'Écriture. Et Dieu n'a pas besoin de tiède, Dieu veut des gens bouillants. Est-ce que vous acceptez le plan de Dieu? Si à la prochaine Assemblée Générale, on vote dans le prévisionnel, il ne faut que des chrétiens bouillants. Est-ce que vous allez voter? Est-ce que vous allez dire, oui, on vote. Pour former des stagiaires, est-ce que vous votez? Pour soutenir le Niger, est-ce que vous votez? Pour aider le pays de l'Est, est-ce que vous votez? Etc. On le fait ici, ça c'est quelque chose, c'est clair, on le fait tous ensemble, on le fait. Mais est-ce que vous allez voter lorsque si le Seigneur Jésus lui dit, ah mais moi en plus j'ai un plan, le Seigneur, il pourrait le dire ça le Seigneur. C'est plus important que tous nos projets à nous. Le Seigneur, il pourrait dire, attendez. Votre prévisionnel, c'est bien. Mais moi, j'ai beaucoup mieux. Est-ce que vous allez tous voter pour être bouillants pour ma gloire? Ça nous engage. Ça nous engage de suite. C'est sûr que donner 10 euros ou 20 euros pour le Niger, ça fait des sommes extraordinaires ensemble. Mais que le Seigneur nous demande de voter, est-ce que vous voulez être bouillant? Ah oui, je veux être bouillant, Seigneur. Je veux être bouillant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être bouillant? Parce qu'il ne faut pas dramatiser non plus. Mais c'est quand même dangereux parce que Jésus dit que les tièdes, il va les vomir. Dieu ne rejette pas. Alors il prend l'image d'un vomi, pourquoi? Eh bien parce que le corps rejette ce qu'il ne supporte pas. Alors l'image, elle n'est peut-être pas très poétique, mais quand même, elle explique bien que Dieu, le corps du Christ, n'acceptera pas ce qui est tiède. Et vous pouvez vous contenter de la tiédeur, vous pouvez vous en contenter, dire, mais moi je fais des œuvres, écoute, je sais ce que j'ai à faire. C'est votre raisonnement. Mais Dieu, il dit non. Le Seigneur, je crois qu'il nous donne tout pour qu'on soit bouillant. Il ne nous dit pas, soyez bouillant, débrouillez-vous. Non, il nous donne ce qu'il faut pour être bouillant. Il y a dedans d'ailleurs quelques conseils que l'on va lire, qui nous permettent d'être bouillants pour Dieu. Qu'est-ce que c'est la richesse spirituelle? Alors on va le lire, vous allez voir. Verset 18. Qu'est-ce que c'est qui rend un croyant riche? Riche. C'est Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter, alors de qui? De moi. C'est Jésus qui parle. Vous savez, c'est tout le temps avec lui que ça se passe. Dans sa présence. De l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Non, c'est pas... Ce que vous avez dit, c'est trop général. C'est pas faux. Mais c'est trop général. Là, il y a un conseil, et vous remarquerez cette délicatesse du Seigneur, c'est un conseil. Dieu ne nous oblige pas, parce que ce que l'on fait, il faut le faire de bon cœur. Quand on loue le Seigneur, il faut que ça vienne du cœur, vous êtes d'accord avec moi? Dans une église, quand on loue le Seigneur, on pourrait le faire d'une manière mécanique et obligé. Est-ce que Jésus pourrait dire, je vous ordonne de me louer? Est-ce qu'il pourrait le faire? Réfléchissez, est-ce qu'il pourrait le faire? Ben oui, Dieu pourrait nous obliger. C'est nous qu'on lui doit tout. Il pourrait nous ordonner, on va commencer, Julie, je vous ordonne de louer le Seigneur, de suite, allez à vous, une minute. Allez, hop, Gérard, allez à vous, c'est votre tour, une minute. Et je pourrais dire ce soir, ma femme, tu sais, ils ont tous loué le Seigneur cet après-midi. Est-ce que ça serait bien? Est-ce que ça serait bien? Est-ce que c'est comme ça marche? Oh, tout le monde aurait loué le Seigneur. Mais est-ce que ça viendrait du cœur? Non, on ne sait pas. À Dieu, il faut que ça vienne du cœur. On fait quelque chose, il faut le faire de tout son cœur. C'est pour ça que Dieu dit, je te conseille. Alors la vraie, vraie, vraie richesse, c'est quand même intéressant d'être vraiment riche pour Dieu. Je ne parle pas de richesse matérielle, quoique si Dieu veut vous bénir matériellement, après tout, à qui appartient l'or, à qui appartient l'argent. Je te conseille d'acheter, donc il y a un verbe. Alors quelqu'un pourrait dire, ah bon, il faut acheter maintenant. On m'avait dit que c'est gratuit. Bien sûr que c'est gratuit. Mais le verbe indique un effort, qu'il y a un effort à faire. Même si c'est gratuit, il y a un effort à faire. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Cette image, elle est extraordinaire, je ne vais pas toute l'expliquer, mais on la comprend à une phrase, c'est-à-dire que l'or, pour le purifier, il faut le faire chauffer à très haute température. Donc, pour que de l'or puisse commencer à fondre, il faut du temps. Et la richesse spirituelle, c'est du temps de qualité que l'on passe dans la présence de Dieu jusqu'à ce que notre cœur soit réchauffé. Comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui ont dit « Ah, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Vous vous rappelez ces deux disciples hein? Ils étaient malheureux, déçus, tristes, etc. Et Jésus, hop, les a rejoints sur le chemin, il les a laissés parler et au bout d'un moment, il leur a expliqué les Écritures. Et quand ils l'ont arrêté pour avoir un peu plus de... pour profiter de sa présence. Et quand Jésus a partagé le pain et le vin, il est dit que ses yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Combien de temps cela a-t-il duré? De Jérusalem à Emmaüs, il y a 11 kilomètres, ils ont peut-être marché pendant 2 heures, ils ont mangé ensemble, donc ça peut être traîné 2h30, 3 heures cette affaire. Vous voyez, ça nous parle d'un temps de qualité. Ils sont restés un long moment ensemble et leur cœur s'est remis à bouillir. Et quand leurs yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis à Jérusalem. Jésus avait donné cet ordre. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Et eux, ils partaient. Et voyez, quand la présence de Dieu demeure suffisamment, notre cœur se remet à fondre. Et là, il va pouvoir se passer quelque chose. La richesse, c'est du temps de qualité où nous permettons à Dieu d'agir dans notre vie, comme Marie qui était assise au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Dieu était en train d'agir. Marthe travaillait pour Dieu, Jésus était en train de travailler dans Marie. Vous voyez la différence? C'est une chose de travailler pour Dieu, ça n'est une ordre de permettre à Dieu de travailler en nous. Et c'était ce qui était en train de se passer. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ces chrétiens de la Odyssée. Bien sûr que je connais vos œuvres. Et on le voit dans les autres églises, le Seigneur quand même dit les choses comme il faut. Il loue les chrétiens lorsqu'il faut les louer. Mais lorsqu'il faut les reprendre, il les reprend. Et là, il leur dit, mais voilà, le problème, vous êtes trompés. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui veulent être riches vraiment? Est-ce que quand vous allez vous présenter devant Jésus, parce qu'il va vous parler, c'est une affaire sérieuse ça. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez envie qu'il vous dise, ah, ma fille rentre. Ah, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? T'as été léger. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Déjà de rentrer, oui. C'est déjà pas mal d'entendre « entre ». Quand on voit que beaucoup entendront, retirez-vous de moi. Moi, j'endormirai pas, moi, de ça. Si je savais que Jésus va me dire, retire-toi de moi, je crois que je ne supporterai pas. Et pourtant, combien de chrétiens, c'est écrit, combien de chrétiens, parce qu'ils n'écoutent pas ces conseils, ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils vont vous allez leur dire, écoutez, passez du temps de qualité devant le Seigneur. Oh, mais vous ne me comprenez pas, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis patron d'une entreprise. Et que vous soyez patron ou que vous soyez employé, que vous soyez riche, pauvre, jeune ou vieux, j'en sais rien, quelle que soit votre condition sociale, si le Seigneur nous demande de passer du temps dans sa présence, nous pouvons passer du temps dans sa présence. C'est une ruse qui vient droit de l'enfer de penser qu'on n'a pas de temps à donner au Seigneur. Nous avons tous du temps à donner pour ce qu'on aime. Tous. Des jeunes sont capables de passer 3, 4, 5 heures devant Internet. C'est vrai, les jeunes? C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je trouve que c'est dommage. Le Seigneur, il pourrait dire à plusieurs parmi nous, t'as pas pu veiller une heure avec moi? Vous savez qu'au moment où Jésus avait le plus besoin de ses amis, la nuit où Jésus a eu le plus besoin de ses amis, ils étaient à une portée de jets de pierre, ils dormaient. Et Jésus leur a dit, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? C'est une question que Jésus pourrait poser dans toutes les églises de France s'il se déplaçait physiquement. Je crois qu'il pourrait poser la question. Et cet après-midi, au travers de mon ministère, il vous la pose. Tu ne peux pas veiller une heure avec Jésus? J'aimerais que vous répondiez à cette question à vous-même. Ne me répondez pas à moi parce que quand même c'est sérieux. Vous pouvez donner une heure à Jésus par jour? Ou est-ce que vous avez le toupet, le culot, je ne sais pas le mot qu'il faut utiliser, mais qu'importe. Est-ce que vous avez j'allais dire le courage, non, ce n'est pas du courage. Est-ce que vous avez la folie de répondre, j'ai pas le temps. Les vierges folles, elles n'ont pas eu le temps de prendre de l'huile. Et nous, qu'on aurait dit, bon, c'est pas grave, t'as oublié, on ne va pas en faire tout un plat. C'était plus que de l'oubli, c'était de la folie. Ne pas veiller une heure avec le Seigneur, c'est pas de l'oubli. C'est pas des excuses, c'est également de la folie. Ne pouvez-vous pas veiller? Voulons-nous voir une église où Dieu confirme sa parole? Est-ce que ça vous intéresse de voir une église où Dieu confirme sa parole? Ce matin, une sœur me disait que quand elle s'est levée pour prendre le pain et le vin, elle a été guérie. C'est pas bien? Elle a fait un acte de foi. Elle s'est levée, elle a dit, Seigneur, tu vois, elle pensait à sa souffrance. Quand elle s'est levée, elle a senti qu'elle était guérie. C'est pas une bénédiction? C'est ce que nous voulons voir. Alors la richesse, voilà, c'est ça la richesse. La richesse, c'est de dire, je veux du temps de qualité. Qu'est-ce que c'est de bloquer une heure? Moi, je sais que j'aime bien. Ce soir, je passerai demi-heure devant les infos. Parce que je veux voir ce qui se passe au Japon. Et pourtant, je peux vous assurer que j'ai des emplois du temps costauds. Et je me suis levé ce matin, ça doit être 5h30. Mais je peux vous dire que si je veux bloquer demi-heure pour voir les infos, je les bloquerai. C'est pas vrai pour chacun d'entre nous? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et que même, je vais dire un truc qui est pas vrai. Mais je peux le faire, parce que j'ai déjà fait. Si pendant les demi-heures où je regarde les infos, je ne veux pas décrocher le téléphone, je peux le faire. Je sais que les gens rappelleront. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors si on est capable de le faire parce qu'on est intéressé par les infos, ce n'est pas un péché d'être intéressé par les infos. On ne pourrait pas le faire pour le Seigneur? Pendant une heure, je ne réponds pas. Vous croyez que Dieu va vous gronder parce que vous ne décrochez pas pendant votre culte? Moi, je crois que non, au contraire. Vous croyez que le Seigneur il va vous gronder de ça? Non, au contraire. Il va vous encourager. Il va voir que le plus important pour vous, c'est du temps de qualité dans sa présence. Je te conseille d'acheter de l'or. Voilà, c'est ça, cet or éprouvé. Dans le lieu très saint, tout était couvert d'or. Ça représente la communion la plus intime que l'on peut avoir avec le Seigneur, afin que tu deviennes riche. Il y a un autre conseil qui est lié à la sainteté. Est-ce que pour vous, la sanctification, c'est important? Ou est-ce que vous dites, oh, écoutez, on est dans un monde, tout le monde est grossier, tout le monde est vulgaire, tout le monde regarde des films moches, de la violence, tout ça. Est-ce que c'est normal? On a passé à mon fils, on a passé à un de mes fils, un jeu vidéo, et ma femme a vu ce jeu. Mon fils n'a pas utilisé ce jeu, mais on lui a passé. C'est un chrétien qui lui a passé. Et sur la pochette de cette vidéo, il y a écrit « Assassin, ma destinée ». Et c'est un jeu où un homme se venge et tue tous les gens qui ont tué les membres de sa famille. Enfin, j'ai lu, moi, qu'on appelle la légende. Ma femme a cru que c'était mon fils qui avait acheté ce jeu. Elle en a pleuré. Elle est montée dans mon bureau en pleurant. Elle me dit, Gérard, tu te rends pas compte? Oh, regarde. Alors, bien sûr, notre fille a dit, mais non, c'est pas moi, on me l'a prêté. Moi, quand j'ai vu la truie, je ne m'en suis pas servi. Et j'ai vu le chrétien. Et il m'a dit, ouais, mais je veux bof. Moi, je crois que, puisque celui qui nous appelait est saint, nous devons être saints dans toute notre conduite. Et moi, je suis choqué lorsque je vois des jeunes qui utilisent des jeux de violence. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit joue avec des jeux de rôle de violence? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous, vous donneriez à un inconverti un jeu comme ça? Est-ce que vous le donneriez? Et voyez, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Les chrétiens de la Odyssée avaient failli dans trois domaines. Le premier, c'était le fait qu'ils n'avaient plus de communion avec Dieu et qu'ils vivaient sur les œuvres. C'est pour ça qu'ils croyaient qu'ils étaient riches, alors qu'ils étaient pauvres. Le problème des Laodiciens, ils s'imaginaient que parce qu'ils faisaient des œuvres, Dieu les approuvait, donc ça devait gazer. Mais ce n'est pas parce que Dieu approuve nos œuvres qu'il approuve notre comportement. C'est pour ça qu'au jour du jugement, certains vont se pointer devant le Seigneur et vont dire « Mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. Oh, » vous rendez compte hein? Et qu'est-ce que Jésus leur répondra? « Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Et c'est ça, le deuxième problème, c'est que les gens confondent le service pour Dieu et le cœur, la sanctification. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et un chrétien qui se permet, voyez, je parlais des jeux vidéo, mais on pourrait multiplier la liste de choses que l'on devrait pouvoir régler en quelques secondes en disant, mais Seigneur, est-ce que ça, tu es d'accord? Est-ce que Dieu est d'accord, par exemple, que vous fassiez 2 heures de footing par jour? Est-ce que c'est bon de s'occuper de sa santé? Voilà. Je crois que Dieu nous a donné un cerveau, de l'intelligence, et on sait ce qu'on peut faire. On sait ce qu'on peut regarder. On sait où on peut aller. On sait les activités que l'on peut participer, etc., etc. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que la honte de la nudité ne paraisse pas. Parce que ça doit être terrible de se retrouver spirituellement nu devant Dieu. Je faisais allusion ce matin à ce gars qui a accepté l'invitation. Vous savez, dans la parabole du festin des noces, il y a une multitude de gens qui ont été invités et il y en a plein qui refusent. « Ah non, moi je suis occupé à mon champ, moi je suis occupé à mon trafic, ah non, moi j'ai acheté des bœufs, ah moi je viens de me marier, j'ai pas le temps. » Et puis, le jour des noces de l'agneau, il y en a un qui est entré et on lui dit « Mais comment ça se fait, comment tu es entré ici sans avoir revêtu l'habit de noces ?» Il avait accepté l'invitation. Il représente tous les chrétiens qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais qui ne se sont pas sanctifiés. Et cet homme aussi, on va le lire parce que c'est quand même sérieux, cette parabole, on l'utilise toujours en expliquant les gens qui s'excusent et qui ne veulent pas l'invitation du Seigneur. Mais en vérité, l'enseignement de cette parabole, Matthieu 22, c'est quelqu'un qui a accepté l'invitation et qui n'a pas accepté la sanctification. C'est ça l'enseignement. Matthieu 22, c'est un des 7 textes où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans. Regardez, Matthieu 22, verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, Seigneur, mais oui, je prends le baptême. Moi, ça m'a fait pitié, ça. Moi, si vous saviez le nombre de gens à qui je refuse le baptême, ils ne sont pas contents. D'ailleurs, ils partent, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ne se convertissent pas. Ils entrent dans l'église, ils entrent dans le royaume de Dieu par la fenêtre. Ils n'entrent pas par la porte. La porte, c'est la sainteté, entrer par la porte étroite. Vous avez vu? Il n'a pas revêtu l'habit de noces. Il y a des gens, ils se contentent de leur habit à eux. Il y a des gens, ils se contentent de leur religion. Moi, j'ai ma religion, je rentrerai dans le royaume avec ma religion. Vous pouvez rentrer avec la religion que vous voulez, qu'elle soit pentecôtiste. La meilleure religion pentecôtiste qui existe, ce n'est pas pour ça que vous serez sauvés. Pour être sauvé, il faut se convertir. Est-ce que vous comprenez? Il faut obéir à Dieu pour être sauvé. Cet homme, il représente tous ceux qui ont accepté l'invitation, mais qui ne se sanctifie pas. La sanctification, c'est quelque chose de sérieux. C'est la marche de tous les jours. On devrait y faire très attention. Et c'est pour ça que je comprends le troisième conseil, quand Jésus dit, mais je te conseille d'acheter un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Je ne sais pas si c'est votre prière. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Il y a des chrétiens qui sont affolés avec ce qui se passe au Japon, avec ce qui se passe dans le monde arabe, avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que c'est grave. Mais c'est vrai que c'est très très grave. Mais qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Quand vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent, redressez votre tête, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront sur la terre et de paraître debout quand paraîtra le Fils de l'homme. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Un chrétien, il n'a pas à s'affoler, il n'a pas à paniquer. Un tiède, oui, les pêcheurs, ceux qui ne sont pas prêts, d'accord, ils ont de quoi paniquer. Parce que quand on n'est pas prêt, moi, j'aurais peur de ne pas être prêt. Parce que non seulement Dieu peut nous reprendre tous ensemble à l'enlèvement de l'Église, mais est-ce que je peux mourir dans 5 minutes? Mais oui, est-ce que Dieu peut nous reprendre? Eh bien, il y a 1 200 000 personnes par an qui meurent d'hypertension, arrêt cardiaque. Dieu peut nous reprendre, oui, rupture d'anévrisme ou autre, mais Dieu peut nous reprendre quand il veut. Et c'est pour ça que le Seigneur, il est sévère et qu'il dit, mais moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle. Ça, c'est le 4e conseil. Alors, il faut prier pour que Dieu ouvre nos yeux. Quand on lit la Bible, moi, je crois qu'on devrait dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Le psaume 23, je me rappelle, le psaume 23, moi, je l'ai appris par cœur. Quand je suis rentré dans le ministère, le pasteur m'a dit, apprends des versets par cœur. Alors, tiens, je me suis dit, va prendre le psaume 23 par cœur. Et je connais le psaume 23 par cœur. Je peux vous le prouver. Et j'ai récité le psaume 23. Et il y avait 13 ou 14 ans que j'étais dans le ministère. Je me suis trouvé dans l'adversité. Et je râlais. Et j'étais malheureux. Et je critiquais les frères qui m'avaient fait du mal. Enfin, c'était un truc de folie. J'en dormais pas. Je tournais dans le lit. Et puis, un matin, je lisais le psaume 23. Et j'ai lu, tu dresses une table en face de mes ennemis. Et j'ai compris vraiment ce que ça voulait dire, oindre les yeux. Seigneur, si je ne combats pas contre la chair et le sang, si je ne lutte pas contre la chair et le sang, si donc tu es mon berger, tu dresseras une table dans l'adversité. Et je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, je ne combattrai plus par mes forces. Je te dépose tout ça à tes pieds et je te remercie pour cette épreuve. Et en l'affaire de quelques jours, tout était renversé. Dieu avait dressé une table dans l'adversité. Vous comprenez pourquoi on peut connaître tout par cœur, mais c'est une autre chose. Seigneur, ouvre mes yeux. Je vais relire le psaume 42. Mais ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Achète du colire. C'est ça. Seigneur, je veux lire, mais je ne veux pas lire pour lire, parce qu'on peut lire. Bon, allez, on lit 3 chapitres. Ah, je lis 3 chapitres par jour. Et alors, il vaut mieux lire peut-être que 3 versets et les méditer que lire 3 chapitres pour lire 3 chapitres. Vous comprenez ce que je veux dire? Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. C'est ça que Dieu veut. C'est ça la richesse. C'est ce temps de qualité. C'est cette sanctification. C'est cette honnêteté devant Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux. J'ai des combats, j'ai des luttes en ce moment. C'est pas normal. Ça fait, c'est normal d'avoir des épreuves. Mais c'est pas normal de mal vivre ces épreuves. Il faut que j'arrive à accepter ces épreuves. Et donc du zèle. Est-ce que mes frères et sœurs, dans ce temps de la fin, dans ces temps difficiles, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine qu'on se ressaisisse? Et que si Jésus donne le 4e conseil, et donc du zèle, Seigneur, je veux du zèle. Je veux du zèle pour ta maison. Je veux aller prier. Cette semaine, je prierai pour l'église du Japon, pour l'église en Libye. Vous savez qu'en Libye, il y a beaucoup de chrétiens persécutés. En Égypte, en Tunisie, et puis ça va continuer. Je veux que le zèle de ta maison me fasse bouillir. Vous croyez que ça plaît à Dieu quand quelqu'un dit « Ah Seigneur, je veux être zélé. Le mardi à la réunion de prière, je vais aller prier. » Vous savez, en ce moment, on est encouragé. Il y a davantage de gens qui viennent prier depuis que j'ai expliqué quand même que c'était quand même inquiétant dans une église de 400 membres de voir des fois à 7h30 qu'une dizaine de chrétiens. Bon, ça a bougé. Merci Seigneur. Mais peut-être que vous êtes concernés par cette affaire. Est-ce que pour vous, la maison de prière, c'est important? Est-ce que c'est important de dire, eh ouais, c'est pas la seule appellation que Jésus donne à l'Église, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, ma maison sera appelée une maison de prédication? Une maison de prière. Dieu donne un nom à son Église, un. Il aurait pu en donner plusieurs, oui ou non? Un nom, ma maison, sera appelée une maison de prière. Est-ce que vous aimez la prière? Mais de toute façon, à la limite, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une affaire de sentiment ou d'émotion? Ou est-ce que c'est une affaire de commandement de Dieu? Ta maison est une maison de prière, je vais prier. J'ai peut-être pas beaucoup de sujets personnels, tant mieux. Mais je sais qu'il y a des frères et sœurs qui souffrent et je vais aller prier pour eux. Et Dieu le voit ça. Et ça, ça plaît à Dieu. C'est, je crois, que là qu'on peut comprendre qu'il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Et donc, du zèle, et repens-toi. Peut-être que pour retrouver cette grâce, il faut se repentir. Il n'y a pas que les pécheurs qui doivent se repentir. Les chrétiens aussi, des fois, doivent redemander pardon à Dieu. Mais Seigneur, je suis tiède. Moi, les Japonais qui meurent sous les décombres, moi, je m'en fiche. Eh bien, on ne devrait pas. Même si c'est écrit, on devrait, Seigneur, aie pitié d'eux. Et pitié d'eux, sauve-en plusieurs. Ils ont blasphémé avant ce tremblement de terre. Seigneur, sauve-en quand même quelques-uns. Comme le brigand sur la croix. Voyez, moi, quand j'entends les gens dire, oh, moi, je m'en fiche, je vois ce qui se passe ailleurs. Moi, ça me peine, voyez. Voyez, autant on doit être en paix, mais autant il n'est pas possible qu'on se moque de ces choses. Et oui, comme dit la sœur, il faut quand même avoir la compassion. Et si on n'a pas de compassion pour les âmes perdues, c'est pas compliqué. Vous êtes tiède. C'est pas la peine d'aller voir un docteur spirituel. Vous êtes tiède. Si vous n'avez pas le fardeau des âmes, je vous le dis, je vous le dis peut-être maladroitement, si vous n'avez pas le fardeau des âmes, vous pouvez être sûr que vous êtes tiède. Et il y a les chrétiens, des fois, que je leur pose la question. Mais vous avez pas envie que des âmes aillent au ciel? Vous priez pour que des âmes soient sauvées? On dit, mais non, moi, j'y pense même pas. Mais ça, c'est vrai, ils ont l'honnêteté de le dire. Mais ils sont tièdes. Quelqu'un qui est bouillant, il est obsédé, dans le bon sens du mot, par le fardeau des âmes. Et il le dépose aux pieds du Seigneur. Et le dernier conseil, c'est voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend... Est-ce que vous entendez cet après-midi le Seigneur vous parler? Moi, je crois que Dieu veut parler. Et vous redire ce qu'il a dit tout à l'heure. Tu ne peux pas veiller une heure avec moi? Est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que l'Esprit de Dieu a parlé aux oreilles de ton cœur? Je ne parle pas aux oreilles physiques. Bien sûr, j'espère que vous entendez. C'est un bienfait d'entendre, comme disait notre frère Edwige. C'est un bienfait de marcher, de bouger, d'entendre. Mais c'est un bienfait supplémentaire que d'entendre spirituellement. Que celui qui a des oreilles entende. Est-ce que vous avez entendu que le cœur de Dieu, votre Père, vous demande une petite heure par jour de qualité? Quand on aime quelqu'un, moi ma femme, je ne l'ai pas vue depuis hier, elle est partie. Mais ce soir, j'ai envie de passer une heure avec elle. Est-ce que c'est normal? Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on n'a pas envie de passer un petit moment avec elle, avec lui, avec elle, hein? Alors, donnons, commençons avec cette heure. Programmons-la. Faisons-nous violence et les choses vont s'enclencher toutes seules. En tous les cas, si le jugement est sévère, je te vomirai de ma bouche. Par contre, les bénédictions, elles sont proportionnelles aussi. À celui qui vaincra, on le relit la promesse. C'est vrai que la malédiction, entre guillemets, parce que c'est une malédiction, c'est du mal d'être vomi de la bouche du Seigneur. Oui ou non? Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une malédiction. Hein? D'ailleurs, Jésus dira, retirez-vous de moi, maudit. C'est-à-dire, vous allez attraper le mal. Et c'est vrai que c'est être vomi de la bouche du Seigneur, c'est une malédiction. Mais regardez la bénédiction. C'est sûr que c'est grave d'être vomi de la bouche. Mais regardez la bénédiction. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous ne trouvez pas que c'est bien? Vous rappelez le jour où la mère de Jacques et Jean s'est approchée de Jésus, elle avait du toupet quand même. Elle a dit, ordonne que mes fils soient assis, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Elle avait de l'ambition, cette femme. Vous vous rappelez ce que Jésus a répondu? Mais là, c'est pire. Il ne dit pas le Seigneur Jésus qu'on s'asseoir à droite ou à gauche. Il dit quoi? Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous voyez qu'on régnera avec lui. C'est pas beau, hein? Quelle promesse! Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône, son trône. Alors qu'est-ce que vous préférez? Être vomi de la bouche du Seigneur? Entendre, retirez-vous de moi? Je ne vous connais pas? Aller dans les pleurs et les grincements de dents? Ou est-ce que vous avez envie d'entendre? Rentre, ma fille, rentre! Ah, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Tu as été bouillant, tu t'es ressaisi. Le 13 mars 2011, tu t'es ressaisi. Et jusqu'à la fin, tu as été fidèle. Tu as commencé, tu as repris une heure avec moi de qualité. Tu t'assieras sur mon trône. On ne le fait pas pour la récompense. Ce qui est important, c'est qu'on soit avec lui. Après, on sait que ça sera bien. Ça ne vaut pas la peine, frères et sœurs. Rentre, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Des robes de fin lin, les noces de l'agneau. Quelle aventure. Vous ne croyez pas que c'est une aventure qui nous attend, hein ? Quel programme ! Et c'est ce que Dieu veut. Être vomi, ce n'est pas ça que Dieu veut. Mais dans le ciel, l'impureté ne rentrera pas. Et pour être pur, il faut se placer sous le sein du Seigneur et prendre au sérieux sa parole. Vous l'avez pris au sérieux, la parole, cet après-midi ? Vous êtes sérieux ? On ferme les yeux quelques instants. Vous voulez répondre au Seigneur dans votre cœur, dans votre cœur. Est-ce que vous voulez lui répondre par rapport à la question de « Ne peux-tu pas veiller une heure avec moi ?» Est-ce qu'il y a un chrétien qui, dans son cœur, dit « Mais Seigneur, quand même, je trouve une heure pour aller faire un jogging, je trouve une heure pour regarder les infos, je trouve une heure pour le jardin, je trouve une heure pour le bricolage, je trouve une heure pour regarder des programmes sur Internet, et je ne peux pas trouver une heure pour le sauveur de mon âme ?» Je sais, vous savez, moi je vous le dis, le Seigneur vous bénira. Si vous dites dans votre cœur maintenant, je vais bloquer la première heure de la journée. Je ne sais pas quelle heure vous vous levez, je ne sais pas quelle heure vous vous couchez, mais laissez-moi vous dire que Dieu est attentif. Vous savez, quand il est dit, Dieu fut attentif. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un l'autre, et Dieu fut attentif, et un livre fut ouvert pour ceux qui craignent son nom. Craindre Dieu, c'est dire, Seigneur, tu m'as parlé, j'ai honte. Parce que ça fait 50 fois que j'entends une prédication sur ce sujet. Et je te remercie d'avoir patienté. Mais moi, je crois que non seulement Dieu veut nous bénir, mais Dieu veut bénir les autres au travers de notre vie bouillante. Et je m'adresse à ceux qui n'ont pas de communion avec Dieu, ceux qui... Il y en a plusieurs, je le ressens dans mon esprit. Plusieurs, vous vous contentez des réunions. Vous êtes dans un profond danger. Et je dois vous le dire. Et j'ai beaucoup apprécié. Je crois que Dieu a permis qu'il n'y ait pas de musiciens cet après-midi. Parce que l'on voit que la piété, tout ça, ce n'est pas une affaire de musique. C'est une affaire de cœur. On n'est pas bien dans la présence de Dieu. Alors on va lui parler dans notre cœur. Pendant que je prie, priez aussi dans votre cœur. Demandez à Jésus de poser sa main sur vous. Faites-vous violence. Ayez du zèle. Choisissez d'avoir du zèle. Ce n'est pas Dieu qui vous le donnera, c'est vous qui le prendrez. Ayez du zèle et non de la paresse, dit le Seigneur. Et je vous assure que nos prochaines réunions seront bénies. Nos réunions de prière, nos réunions d'études, nos réunions d'exhortation, d'évangélisation auront l'approbation de Dieu. L'assistance du Saint-Esprit, si nous nous faisons violence. Je m'adresse au couple également. Soyez des bénédictions dans l'Église. Il y a plein de jeunes couples, dès qu'ils sont mariés, pof, ils font plus rien. Combien je vous encourage à trouver votre place dans l'Église. Oui, les œuvres. Non pas pour les récompenses dans le ciel, même si on va certainement être heureux d'avoir ces récompenses, mais quand même, ne sont-elles pas quand même le signe d'une communion avec Dieu. Alors prions quelques instants. Notre Père, notre Dieu, tu connais tout. Toutes ces églises auxquelles tu as parlé dans l'Apocalypse, tu les connaissais toutes. Tu connaissais les œuvres de chacune d'entre elles. Tu vois nos vies, tu vois tous les chrétiens dans ce pays en ce moment, tu vois ce qu'ils sont, où ils sont, ce qu'ils sont en train de penser. Mais tu nous vois, nous, dans ce lieu de culte. Nous t'avions prié, Seigneur, pour que tu parles à nos cœurs. Avant de venir, ce matin, tout à l'heure, nous t'avons prié. Et nous croyons que tu parles, Seigneur. Parce que tu veux que l'on soit riche, vêtu, les yeux ouverts, plein de zèle, dans ta maison. Tu vois, Seigneur, mes bien-aimés, tes enfants. Tu vois ceux qui ne sont pas encore baptisés, ceux qui sont là, qui découvrent l'Évangile. donne-leur dès le départ d'être sérieux avec toi, d'être de véritables disciples. Nous te prions également pour tous ceux qui ont pris le baptême et qui ne se sont jamais convertis et qui ne réalisent pas le danger dans lequel ils se trouvent. Seigneur, parle-leur, convainc de péché et de justice, afin que la vie de Christ les envahisse. Nous te prions pour toutes les vierges folles de Toulouse, tous les chrétiens qui n'ont plus d'huile, qui ne sont pas prêts. Et malgré le fait qu'ils gravitent autour de croyants qui le sont, Seigneur, nous te demandons de les éclairer, afin qu'ils reprennent l'huile en abondance que tu donnes dans ces moments, oui, de communion avec toi. Seigneur, fais-nous grâce. Dirige les prochaines réunions. Tu vois la réunion mardi sur la vie du couple. Seigneur, donne-moi ta sagesse pour pouvoir parler au couple, afin qu'ils comprennent la beauté de l'intimité dans un couple. C'est toi qui as créé ces choses, Seigneur. C'est toi qui bénis l'homme, la femme, les couples, les familles. Et même si les temps sont difficiles, nous croyons qu'il y aura des vainqueurs, toujours, qui glorifieront ton nom. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi, comme nous le croyons, comme nous l'avons chanté, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Amen.